Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique. Technologie.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 30e épisode du podcast Interstice. Nous sommes entourés de systèmes de communication sans fil qui émettent des radiations électromagnétiques. Les effets de ces ondes électromagnétiques sur la santé humaine sont au cœur des préoccupations de nombreux scientifiques. Des chercheurs essayent donc de mettre au point des outils qui permettent de mieux les comprendre. Stéphane Lanteri, directeur de recherche à l'INRIA Sophia Antipolis, est avec nous pour en discuter. Stéphane Lanteri, bonjour.
Bonjour.
Votre équipe s'intéresse à la modélisation des phénomènes d'interaction entre champs électromagnétiques et tissus biologiques. Et malgré les nombreuses études réalisées, il n'y a toujours pas de consensus sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Comment cela se fait-il ?
Plus précisément, on distingue classiquement deux types d'effets. D'une part, les effets dits thermiques, qui eux sont assez bien connus, bien caractérisés, et justement ceux que l'on va considérer dans nos travaux. Et d'autre part, les effets dits non thermiques, qui sont bien plus difficiles à étudier et modéliser, et qui sont au cœur des questions actuelles pour lesquelles le consensus n'est pas établi.
Mais quels sont ces effets thermiques dont vous parlez ?
Alors, ce sont les effets qui se traduisent par une élévation de température des tissus, résultant de la dissipation d'énergie électromagnétique dans ces tissus. Et on sait très bien qu'on doit veiller à ce que l'élévation de température des tissus ne dépasse pas certains seuils pour éviter des effets sanitaires.
Et pour ce qui est des effets non thermiques ?
Disons que les outils dont ils disposent aujourd'hui ne permettent pas de modéliser les effets dits non thermiques. Et en général, ces études reposent essentiellement sur l'expérimentation ou l'étude épidémiologique. En fait, la modélisation et la simulation sont très peu utilisées, voire même pas du tout, pour étudier les effets non thermiques. C'est encore prématuré. En revanche, la modélisation des effets thermiques est très bien établie. On sait quelles sont les équations à résoudre, on sait dans quelle situation il faut les résoudre, et on sait très bien quel type de méthode numérique on doit adopter pour simuler ce type d'effet.
Alors, quel est l'intérêt de la modélisation par rapport à d'autres méthodes ?
Pour étudier les effets thermiques, il y a essentiellement deux approches. La première approche est une approche par mesure, et pour cela, on utilise un fantôme, qui est une tête en plastique dont les dimensions sont normalisées, remplies d'un liquide de caractéristiques homogènes à un tissu. Et puis on va pouvoir exposer cette tête avec différents modèles de téléphone et grâce à des sondes mesurer des élévations de température ou des valeurs de champ en certains points. C'est une approche bien utilisée, bien adaptée, notamment pour vérifier la conformité des téléphones aux normes d'exposition. Mais sa limitation principale est liée au fait qu'elle ne considère qu'un seul tissu. La tête est remplie d'un liquide homogène aux caractéristiques d'un tissu. Alors que la tête, en réalité, est un milieu complètement hétérogène. Et justement, la simulation numérique va permettre de pouvoir considérer cette situation plus complexe. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point est que cette tête, elle est quasiment unique, elle est normalisée, ses dimensions sont plus ou moins définies.
Donc c'est assez loin de la réalité finalement.
C'est-à-dire que la réalité, c'est aussi de nombreuses situations d'exposition, à la fois du point de vue des personnes exposées, il n'y a pas que des adultes exposés, hein. On a bien sûr des enfants à tout âge, et les caractéristiques des tissus varient beaucoup au cours des jeunes années. Donc l'intérêt de la simulation, c'est de pouvoir considérer finalement d'abord une situation d'exposition plus réaliste, et par ailleurs de nombreuses situations d'exposition qu'on ne peut pas considérer facilement avec la mesure, et qui permettront notamment de prendre en compte des différences morphologiques, de prendre en compte aussi, par exemple, l'incertitude sur la connaissance des caractéristiques électromagnétiques des tissus, ou encore le positionnement et le type de source du rayonnement, du système de communication sans fil concerné, pas seulement le téléphone mobile éventuellement.
D'accord. Et quelle est la particularité des méthodes que vous utilisez ou que vous développez ?
Alors, la simulation numérique pour ce type d'études est déjà utilisée depuis de nombreuses années, probablement plus d'une vingtaine d'années. Et dans, on va dire, 98% des cas, les méthodes de résolution des équations modélisant la propagation d'ondes ou l'élévation et l'élévation de température dans les tissus s'appuie sur des numérisations régulières, uniformes, des milieux considérés, c'est-à-dire les tissus de la tête, par exemple. On parle de méthode de type différence finie. Et cette méthode est connue depuis bien longtemps et est largement exploitée par les utilisateurs ou les équipes censées évaluer, par exemple, réaliser des études sur les effets thermiques, soit des physiciens ou soit des ingénieurs qui mettent au point des téléphones mobiles et qui vont essentiellement utiliser la méthode pour son résultat. Donc on va partir d'images médicales de type IRM, par exemple, des tissus de la tête, Ces images sont des voxels, c'est-à-dire des petits cubes.
Oui.
Et le petit cube en question est justement l'entité géométrique de base utilisée par la méthode de différence finie. Donc, les principaux avantages d'une telle approche de modélisation sont la simplicité de mise en œuvre, de compréhension de la méthode, son efficacité. En termes de temps de calcul sur ordinateur, elle peut être très très efficace. En revanche, il y a un certain nombre d'inconvénients, le principal étant que les interfaces entre différents tissus ne sont pas discrétisées avec précision. Or, on sait que c'est au niveau de ces interfaces que se passent des phénomènes électromagnétiques assez forts, puisque c'est là qu'interviennent les discontinuités de champs électromagnétiques.
Donc c'est à ce niveau-là que vous intervenez.
Donc nous, justement, venant d'une communauté de mathématiciens appliqués numériciens, notre expertise principale et notre apport principal est avant tout de concevoir des nouvelles méthodes, éventuellement plus précises, dans ce type de situation. Et on va s'appuyer, dans notre cas, sur des méthodes de type élément fini, qui vont notamment exploiter des modèles géométriques bien plus fidèles des tissus. Ces modèles géométriques sont plus difficiles à construire et nécessitent des interactions multidisciplinaires avec des spécialistes de traitement d'images médicales, des spécialistes de modélisation géométrique, mais le résultat est assez net. On obtient des modèles géométriques bien plus réalistes.
Et plus précis aussi ?
Alors, la précision, ce sera plutôt du côté des méthodes numériques. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire. On conçoit des méthodes et on étudie a priori leurs propriétés de précision, mais aussi d'efficacité. Alors, ce sont des méthodes qui sont plus coûteuses en temps de calcul. Et de toute façon, on ne conçoit pas que ces méthodes vont être des remplaçantes de la méthode de différence finie, mais plutôt des méthodes complémentaires qui vont permettre d'aller étudier plus précisément des questions, des aspects de cette propagation d'ondes électromagnétiques dans les tissus qui seront, un peu moins bien traitées par la méthode de différence finie.
Et quels sont les résultats de vos travaux ?
Les résultats de nos travaux, ce sont avant tout des méthodes numériques qui sont ensuite mises en œuvre dans des logiciels de simulation. Ces logiciels de simulation constituent des outils utilisables par d'autres communautés qui, elles, sont beaucoup plus au fait de l'étude des effets.
Et est-ce que vos simulations influencent le choix des normes d'exposition imposées aux fabricants et aux opérateurs ?
C'est pas nous qui allons juger des résultats de nos simulations pour tirer ce genre de conclusion, mais par exemple, nous travaillons avec Orange Lab, une équipe d'Orange Lab qui est spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années et dont les travaux ont notamment, pas seulement, mais ont notamment une influence sur les activités de normalisation. Pour l'instant, ils ne s'appuient pas sur nos méthodes pour contribuer à ces activités de mise à jour des normes d'exposition, mais ça pourrait être le cas dans le futur et notamment lorsque les résultats des projets en cours seront connus, c'est-à-dire dans un an ou deux.
Jusqu'ici, vos travaux se sont surtout focalisés sur la modélisation des phénomènes d'interaction entre champs électromagnétiques et tissus biologiques pour l'exposition à la téléphonie mobile, mais existe-t-il d'autres domaines d'application ?
Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'il y a une multiplicité de technologies. Il y a plusieurs sources d'exposition. Nombreuses n'ont pas été considérées jusqu'ici dans les études. Il y a aussi une multiplicité des usages, notamment chez les jeunes. Et puis, on ne va pas seulement se limiter à l'étude de la propagation dans les tissus de la tête. On va s'intéresser à la propagation dans le corps entier et par exemple chez la femme enceinte à différents stades d'évolution du fœtus. Donc il y a déjà cette évolution naturelle de ce que nous faisons aujourd'hui pour l'exposition des tissus de la tête vers des situations d'exposition nouvelles, soit en termes de morphologie, géométrie, soit en termes de type de source d'exposition. Mais on reste dans le cadre de l'étude des effets, de la pollution électromagnétique. Mais en fait, généralement, les approches de modélisation numérique que nous considérons, d'autres équipes y travaillent aussi, bien sûr, ont aussi une utilité pour des applications dans le domaine médical.
C'est-à-dire ?
Comme par exemple les applications en télémédecine, où on va être amené à concevoir une micro-antenne qu'on va implanter dans le corps pour avoir une transmission quasi continue de paramètres physiologiques par un système de communication sans fil. Donc là, on aura des questions à la fois d'effet, mais aussi de conception. Parce qu'il faut s'assurer que le signal propagé depuis le capteur dans le corps vers le récepteur externe se propage bien à travers les différents tissus sans créer d'effets néfastes. Et dans ce type de situation, la modélisation et la simulation sont des ingrédients incontournables aujourd'hui pour étudier tous ces problèmes.
Stéphane Lanthéry, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.